Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Marc Le Fleuric, qui vous parle. Bienvenue à notre présentation des résultats annuels 2019 du groupe Lumibird. Merci d'être parmi nous ce matin et de l'intérêt que vous portez à Lumibird. Compte tenu des circonstances très particulières du moment, nous faisons cette téléconférence, cette présentation par téléconférence. Comme l'opératrice vous l'a rappelé, enfin, vous l'a expliqué, vous pouvez suivre en fait le slideshow sur le lien qui vous a été adressé. C'est un lien file.spio3.fr. Je vous donne pas le détail. Si vous avez des difficultés, faites-le savoir. J'espère que la qualité du support vous sera suffisante. C'est malheureusement une première pour nous. Et nous en faisons l'expérience. J'aurai le plaisir de faire cette présentation accompagnée de Madame Aude Noblon-Gourhan, secrétaire générale du groupe, de Monsieur Pierre Valalta, conseiller stratégique en finance, et de Monsieur Jean-Marc Gendre, directeur général délégué du groupe, fraîchement nommé, puisqu'il a été nommé officiellement hier. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler en une page, la fiche d'identité du groupe Lumibird, que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, je suppose. Lumibird est né en 2017, suite à l'acquisition du groupe Cantel par le groupe Cubsys pour créer un leader européen des technologies laser. Lumibird affiche en 2019 un revenu d'un peu plus de 110 millions d'euros, 110,7, avec une bonne rentabilité. La marge d'EBITDA vient d'être publiée à 18,9%. C'est un groupe aujourd'hui qui a des moyens importants pour faire du développement de la production, avec un effectif moyen sur 2019 de 567 personnes, qui sont réparties sur essentiellement 7 sites de développement et de production. Nous en avons 3 en France, en région parisienne, à Clermont-Ferrand et à Lannion en Bretagne. Nous en avons un aux États-Unis, dans le Montana, un autre plus récent au Canada, à Ottawa, un très récent en Angleterre, au nord de Londres, et un en Slovénie, à Ljubljana. À cela, on se rajoute également des filiales commerciales en Chine, Japon, Allemagne, Pologne et USA. Les activités du groupe sont réparties en 2 grands pôles, le pôle laser et le pôle médical. Vous voyez que les activités du groupe sont relativement bien diversifiées. Sur la partie laser, un groupe d'activités important qui représente à peu près le quart du chiffre d'affaires sur la partie industrielle et scientifique. Avec un nombre de clients très important, de produits également très importants. En supplément de ça, quelques intégrateurs industriels qui sont aujourd'hui sur les activités, sur les applications de réparation d'écrans plats, qui utilisent certains de nos lasers, nanosecondes solides, en production. La deuxième activité importante du groupe, juste sur la partie industrielle LIDAR, en règle générale, c'est une activité qui croît relativement modestement d'année en année, mais qui est quand même important évidemment pour le groupe compte tenu de sa proportion par rapport au chiffre d'affaires. La partie LIDAR, est par contre extrêmement dynamique. Elle l'a encore prouvé en 2019. Nous avons trois sous-segments. la partie scanner 3D, donc pour faire du relevé topographique en temps réel, en trois dimensions. Des systèmes donc développés pour la mesure de vent, pour l'énergie éolienne, pour l'industrie éolienne. Et enfin, bon, toutes les technologies relatives aux véhicules autonomes sur lesquels nous sommes extrêmement présents. Donc ce marché, ces trois marchés ont été en très, très forte croissance, donc on y reviendra tout à l'heure, donc sur 2019, et il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas donc dans le futur. Ensuite, donc sur la partie, le troisième volet, sur la partie pôle laser, c'est l'aérospatial, contraction de défense spatiale, avec des gros projets comme le laser mégajoule et des gros contrats avec des industriels de défense français, déjà depuis de nombreuses années. Donc c'est-à-dire que ce sont donc des activités récurrentes. Et plus récemment, on a vu une activité très active en fait sur le spatial, notamment grâce au déploiement en fait des télécoms tout optique spatial. Donc ce marché-là, pour nous, est un marché intéressant dans la mesure où c'est un marché très captif, avec de la bonne récurrence, une bonne visibilité. Voilà pour le pôle laser. Le pôle médical, lui, en fait, se concentre essentiellement sur de l'ophtalmologie, avec deux grandes gammes de produits, donc une gamme de produits de diagnostic basée sur des technologies d'échographie, donc d'ultrasons, des produits de traitement, qui utilisent en fait des lasers que l'on fabrique, pour la plupart, qui traitent en fait des pathologies de la rétine, comme la DLMA, ou la rétinopathie diabétique, mais également le glaucome. En plus de ces applications d'ophtalmologie, nous avons depuis maintenant 18 mois développé également ce qu'on appelle le point of care. Ce sont en fait des instruments utilisé en fait pour en faire du diagnostic extrêmement rapide, pour de la médecine urgentiste, et qui trouve aujourd'hui une application dans le contexte actuel, dont Jean-Marc nous expliquera tout ça. Ce sont des appareils portables, faciles d'utilisation et assez peu coûteux. Avant de passer au cœur de la présentation, je vous propose de parler très rapidement de la crise actuelle et de l'impact du Covid-19 en fait sur l'activité en fait. Sur le slide que vous devriez avoir à l'écran. Je souhaite vous indiquer que le groupe en fait on s'est mis en marche pour assurer la continuité de l'activité, et ça avant les mesures de confinement qui ont été annoncées par le gouvernement. On a tout fait en fait pour être en capacité d'assurer la sécurité de nos collaborateurs. Donc on a mis en place sur l'ensemble des sites les dispositions sanitaires nécessaires pour sécuriser nos collaborateurs et permettre la continuité de l'activité sur l'ensemble du groupe. Donc on est aujourd'hui sur à peu près 60% des effectifs qui travaillent, 60% en globalité, avec une partie en fait sur de la production sur site, et une autre sur du télétravail, notamment tout ce qui est fonction transverse et fonction enfin et équipe de R&D qui travaille sur les projets les plus importants aujourd'hui. Alors ceci étant, on peut noter quand même que On aura donc un impact court terme, au moins déjà sur le mois de mars, dans la mesure où il a fallu réagir extrêmement rapidement. Et ça a été évidemment compliqué de se réorganiser en l'espace d'une semaine pour tout aménager et se mettre en conformité pour permettre une continuité d'activité. Bon, la bonne nouvelle pour le groupe, c'est que nous sommes quand même sur des marchés majoritairement résilients. On a parlé de la défense et du médical. Ce sont des marchés par essence qui sont assez solides malgré les difficultés économiques qui pourraient y avoir. Nous n'avons pas constaté à ce stade d'annulation de commandes. Les plus grosses difficultés, encore une fois, ont été liées à l'organisation interne de production, et l'organisation du travail, consécutive à ces obligations de confinement. On voit quand même sur certaines zones, notamment l'Asie et la Chine, une phase de redémarrage. Maintenant, faut quand même être assez prudent, compte tenu du contexte actuel et de la faible visibilité et de la compréhension qu'on a du contexte environnemental. Donc sur la gestion de la crise, évidemment, on a appris des crises passées, on est déjà à notre troisième crise, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est malheureusement comme ça qu'on apprend, en fait, on sait qu'il faut dans des environnements qui se durcissent, ajuster les charges. On a commencé à le faire, évidemment. Tout ce qui est en fait cash flow est maîtrisé. Là aussi, avec un travail particulier de fait en fait sur tout ce qui est recouvrement de factures, être sûr qu'on soit payé, et prendre toutes les dispositions nécessaires avant de prendre les commandes. Je souhaite aussi souligner la situation financière du groupe est aujourd'hui très solide, de par la structure de son bilan. Aude vous en parlera tout à l'heure. Le groupe est aujourd'hui bien armé en fait pour faire face aux défis qui s'annoncent devant nous. Alors, nous allons maintenant passer, si vous le voulez bien, au cœur de la présentation. Je vais commencer par parler des faits marquants 2019. Aude vous présentera ensuite les résultats financiers. Jean-Marc nous fera un point sur l'acquisition en cours du groupe Elex en Australie. Je reviendrai pour ma part sur la partie stratégie et perspective. Nous pourrons ensuite répondre à vos questions-réponses et puis malheureusement nous n'aurons pas cette fois-ci le plaisir de nous retrouver pour un cocktail. Alors, sur les faits marquants, c'est le slide 6. Le premier point à souligner, c'est la croissance du groupe en 2019, une croissance de 10%. Qui est dans la continuité des deux exercices précédents. Ce graphe parle pour lui-même. Vous voyez en fait trois exercices avec de la croissance affichée. La machine est en marche. Nous sommes structurés pour faire cette croissance. Aujourd'hui, essentiellement organique. Même sur les 110 de cette année, il y a à peu près 1 million d'euros qui viennent en fait des revenus de Slovénie. Autre point à souligner, la croissance s'affiche sur les deux pôles, le médical et laser, avec particulièrement cette année une très belle performance sur la partie médicale qui a atteint presque 17% de croissance. Sur la partie laser, c'est un petit peu en deçà, mais si on regarde plus plus précisément en fait donc sur le slide suivant. Donc vous verrez en fait donc le slide 7, vous verrez que bon, sur les trois activités principales donc du pôle laser, l'activité LIDAR donc enfin réalise une performance donc assez exceptionnelle donc de 33% de croissance. Tout ça encore une fois pour vous renforcer le message que ce marché est un marché extrêmement dynamique et qui n'est pas en fait donc tiré uniquement par l'ADAS. Donc on y reviendra tout à l'heure. Sur les faits marquants, puisqu'en fait je vous parle de la partie LIDAR, on a vu en fait en 2019 une forte croissance sur le scan 3D, sur le wind sensing, ce qui nous a d'ailleurs motivé sur le wind sensing à finaliser ce closing sur la société Halo Photonique qui est spécialisée en fait sur la partie mesure de vent. Nous avions parlé énormément dans les rendez-vous précédents en fait de la partie ADAS. On vous avait expliqué que 2019 avait vu en fait cette première phase de déploiement chez nos clients de certains produits qu'on a fabriqués en relativement gros volume à hauteur d'un millier plus de pièces. Pour passer en fin d'année sur une phase 2 qui est une phase de nouveau développement. C'est ce qui en fait a marqué un pas en fait dans la facturation en fait sur ce segment de marché. Mais ça ne veut pas dire néanmoins qu'on est sorti du marché, au contraire, on est reparti en fait sur un nouveau développement, un produit, une gamme de produits, enfin, beaucoup plus, beaucoup moins coûteux, plus compact, qui répond aux problématiques de fabrication à très gros volume, de façon automatique, tout en garantissant en fait les performances et les qualifications automobiles. C'est un projet qui s'étend comme on vous l'a expliqué enfin sur 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, maintenant dans le contexte actuel, il est possible que la partie ADAS soit effectivement un peu décalée. Sur la partie toujours sur la partie LIDAR, là aussi on a travaillé sur la partie productivité, sur la capacité à produire. Donc avec des lignes de production qui sont de plus en plus performantes et qui sont aussi utilisées sur d'autres produits. Je passe maintenant sur le scientifique et l'industriel. Vous voyez la croissance est flat en fait sur cette année. Avec quand même un chiffre d'affaires qui représente 23% du total, c'est très significatif. Les faits marquants sont indiqués ici. Une volonté en fait de fabriquer ces gammes produits où il y a un mixte produit énorme à partir de plateformes. On a finalisé en fait cette plateforme Merion sur le laser solide et on a engagé en fait des développements sur les nouvelles plateformes sur les laser à fibre notamment. Nous avons signé un contrat, un partenariat avec un acteur reconnu sur le laser à fibre, ce qui est intéressant puisqu'en fait ça permet d'avoir de la récurrence. Et le point aussi très intéressant, qui ne se traduit pas en fait en chiffre d'affaires cette année, mais pour le moins qui a été très actif sur la partie commerciale, ce sont les écrans plats en Asie, ou en fin d'année. Nous avons contracté quelques belles commandes pour la réparation d'écrans plats à partir de laser nanoseconde, dont les résultats, dont les revenus en fait seront essentiellement sur 2020. Le troisième volet d'activité, défense et spatiale, là pour le coup en fait le revenu est en baisse par rapport à l'an dernier, mais c'est lié en fait au cycle de livraison des contrats sur lequel malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Ça ne doit pas occulter là aussi le fait que le segment reste extrêmement actif et que nous avons en fait bénéficié de nouvelles commandes donc enfin importantes donc en 2019 avec des contrats donc sur le télémètre le télémètre bleu TLMB donc qui est le télémètre donc français donc qui va équiper le Rafale mais également donc le nouveau laser donc qui équipera également donc le Rafale donc à horizon de forcément 3-4 années. Donc également des qualifications, enfin des programmes de qualification sur des diodes de puissance pour le spatial, donc avec un grand groupe européen. Beaucoup d'activités, comme je vous l'ai dit, des contrats donc en fait sur du télécom spatial notamment donc en Asie. Qui continue de se développer donc en 2020. Donc et pour finir donc la qualification de télémètre donc sur bon, l'activité de SENSUP donc et notamment donc des télémètres à fibre. Donc on peut passer sur la page suivante si vous voulez bien avec donc un mot sur la société Halo Photonique. Puisqu'en toute fin d'année, nous avons en fait donc signé l'acquisition en fait de cette société qui est un vrai petit bijou technologique, mais enfin, comme vous le verrez, donc rapporte également de la marge. Bon, c'est intéressant en fait donc pour le groupe puisque ça nous permet de monter dans la chaîne de valeur. Vous voyez en fait donc sur cette page en fait donc une photo de l'instrument. Donc c'est un instrument assez typique de ce que fabrique Halo, qui est posé sur le sol et qui permet en fait de faire des profils de vent horizontaux ou verticaux pour mesurer en fait la cartographie des vents sur des distances qui peuvent atteindre 1000 mètres. Bon, c'est essentiellement aujourd'hui utilisé pour l'industrie éolienne, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est cette technologie LIDAR, particulièrement adaptée à beaucoup d'autres choses qu'on fabrique par ailleurs, et notamment sur le véhicule autonome, puisqu'en fait, c'est basé sur la technologie qu'on appelle cohérente, la mesure d'un décalage de fréquence qu'on retrouve de plus en plus dans le secteur automobile. Donc certainement cette activité nous permettra en fait de progresser très fortement sur la partie technologique, mais bon, pour cette année on prévoit également d'affaires croître et également de façon très rentable compte tenu en fait de son potentiel commercial. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Marc pour la partie médicale.
Oui, bonjour à tous. Un point sur la partie médicale, un point rapide. Donc, vous avez vu, Marc a explicité la croissance réalisée en 2019 versus 2018 avec 17%. Je vais aller rapidement sur ce qui a motivé cette croissance. Ce sont des nouveaux marchés, notamment le développement dans la sécheresse oculaire. On en avait déjà parlé. Les sécheresses oculaires, c'est la première raison pour des patients pour aller rencontrer des ophtalmos. Donc, ce marché se développe énormément. Et dessus, nous sommes bien positionnés. Ça a contribué à notre croissance, ainsi que les nouveaux produits, le traitement dans le glaucome et notre poursuite de développement géographique, avec notamment l'amélioration de la performance de la filiale polonaise. Donc tout ça a contribué à notre croissance. À côté de ça, on précise trois autres points, l'acquisition d'Optotec, et je vais revenir dessus dans quelques instants, le dynamisme du marché point of care, dont je rappelle, hein, c'est les produits qui sont utilisés en première ligne de diagnostic ultrasons. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on a des nouveaux produits, de nouvelles indications en gynéco et en cardio, et tout ça fait qu'il y a un certain dynamisme. Derrière ça, il a noté aussi, ça c'est un point important, que l'année 2019, en ligne avec notre stratégie et la stratégie du groupe, a été le développement de projets d'OIM médicaux. Donc nous avons signé plusieurs contrats et validé plusieurs contrats qui sont des contrats de NRE en 2019. C'est-à-dire on développe pour des partenaires des produits et en 2020, on va commencer de produire ces produits-là. Donc tout ça est intéressant parce que ça fait complètement partie de notre stratégie. Maintenant, pour revenir sur l'acquisition d'Optotec, next slide, enfin prochain transparent, Mathieu, s'il te plaît. Voilà. La division d'Optotech, donc c'est une société slovène, c'est un partenaire depuis très longtemps. Donc on a vraiment poussé pour aller chercher ce partenaire-là. Et c'est une intégration verticale, hein. Le CA qu'ils avaient réalisé était 6 millions 4, dont les deux tiers étaient avec nous. Donc en 2019, ça représentait 1 million de chiffre, un peu plus 1 million 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, cette opération stratégique, hein, qui était pour la maîtrise de notre chaîne de développement, pour justement élargir notre offre OIM, elle a été bien menée, puisque l'intégration est totale, et on verra les fruits de tout ça en 2020. Donc un point rapide sur 2019 sur le médical, je reviendrai plus tard sur Elex. Je vais laisser maintenant Marc présenter les derniers points de 2019.
Oui, donc en 2019, donc le groupe a continué à se renforcer sur le plan opérationnel par le management, donc d'une part, donc sur la partie finance, donc on renforce le contrôle de gestion. On a fait venir donc un nouveau directeur donc de ressources humaines, donc on a nommé un directeur de la qualité. On a renforcé également donc l'expertise de R&D avec la constitution de ce groupe d'experts leader au Canada, extrêmement important donc pour l'avenir en fait des activités leader du groupe. Et on a également donc renforcé énormément la partie commerciale, notamment en fait sur les filiales de vente en Asie et aux États-Unis. Donc autre point donc important à noter, ce sont les capacités de production qui sont en fait Hop là, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Je vais faire un appel en même temps. Donc important aussi à noter donc les moyens de production qui ont en fait progressé à la fois sur leur capacité et sur leur productivité. Il y a eu un gros travail de mener en fait sur les sites de Lannion particulièrement, de Clermont, mais également aux Ulis, où on a en fait opéré des transferts d'activités, notamment donc sur la partie médicale, donc qui sont aujourd'hui donc pour une partie en fait donc des lasers, donc qui sont fabriqués aujourd'hui en Slovénie et qui étaient fabriqués jusqu'à présent donc en région parisienne. Donc et enfin donc un point important à noter, enfin on n'avait pas prévu cette crise, hein, donc mais bon donc Bon, les fonds propres ont été très fortement donc augmentés, donc grâce en fait donc à l'augmentation de capital qui a été réalisée en mai donc 2019, mais on a également travaillé en fait donc sur les lignes bancaires, donc voilà, ce qui nous permet en fait donc d'avoir des fonds propres conséquents, donc et d'être armés en fait donc à la fois donc pour poursuivre en fait donc l'acquisition en cours donc d'Elex dans de très bonnes conditions, mais également en fait donc de relever les défis à venir, donc qui seront vraisemblablement assez nombreux. Donc je vais passer maintenant, si vous le voulez bien, la parole à Aude, donc qui va en fait détailler les résultats donc annuels en chiffres.
Oui, bonjour à tous. Donc, à moi l'exercice de vous présenter un tableau de chiffres au téléphone. Donc, je vais essayer d'être synthétique et clair. Donc, les chiffres clés du groupe, tant en compte de résultat qu'en éléments bilanciels et cash flow, confirment ou illustrent la solidité du modèle de Lumibird. C'est un modèle rentable. Donc, le groupe affiche une croissance, Marc l'a dit, de 10% de son chiffre d'affaires, je ne reviens pas dessus, de 9% de son résultat net. Et ce, en tenant compte de l'effort fait sur 2019 pour adapter les moyens de production aux croissances à venir. Marc vient juste de l'évoquer, donc avec le renforcement sur un certain nombre de points, tant opérationnels qu'en termes de management. L'excédent brut d'exploitation progresse également de 26,8%. Il intègre bien sûr l'effet de la mise en application de la norme IFRS 16, mais même hors cet effet-là, la croissance de l'EBE est de plus de 10%. C'est un modèle qui est également autosuffisant. Donc la marge brute d'autofinancement du groupe permet au groupe d'autofinancer ses CAPEX industriels, mais également ses CAPEX financiers, donc ses acquisitions. Et c'est également un modèle d'anticipation, Marc vient d'en parler, sur le fait que le groupe a fait des opérations tant au niveau du marché avec une augmentation de capital donc de 25 millions et la mise en place de dettes qui lui permet à la fin de l'exercice de ressortir avec une dette financière nette négative de 18,2 millions d'euros et lui permet d'aborder relativement sereinement l'année 2020, le contexte actuel, mais également ses projets structurants à venir. Donc, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 110,7 millions d'euros sur l'année 2019, son ROC à 12,3 millions d'euros, son résultat net à 8,8 millions d'euros. Ces résultats annuels sont donc en progression certaine par rapport à 2018. Ce sur quoi je souhaitais insister sur cette présentation, c'est la non-linéarité sur une année pleine de la génération de marge pour la société. Les résultats semestriels qui vous avaient été présentés au mois de septembre avaient fait apparaître une marge qui était bien en deçà et qui avait peut-être pu décevoir certains d'entre vous, cette séquence de résultats, de génération de marge entre le S1 et le S2, c'est quelque chose qui est relativement historique dans le groupe. Donc, dans le slide qui vous est présenté, on vous a positionné sur trois années, donc 2017 à 2019. La séquence de chiffre d'affaires, de ROC et de taux de ROC sur les différents semestres et qui illustre bien cet effet de saisonnalité qui existe dans nos activités entre le premier semestre et le second semestre. Donc, c'est lié d'une part à une structure de coûts fixe, en partie fixe, qui n'est pas forcément linéaire sur l'année. Il y a des coûts qu'on engage en début d'année qui sont portés par le premier semestre de façon historique et de façon, je dirais, récurrente, donc qui pèse plus sur le S1 que sur le S2. Le deuxième élément, c'est effectivement la saisonnalité des activités, et je pense notamment au contrat défense. Et pour 2019, très clairement, un point spécifique qui est cette montée en puissance des capacités de production qui a pesé pour partie, en grande partie d'ailleurs, sur le S1. Ceci posé, l'idée que la rentabilité du premier semestre n'est pas représentative de la rentabilité de l'année est illustrée par les résultats finaux de l'année 2019. Et comme Marc le soulignait au niveau du chiffre d'affaires avec une tendance de croissance du chiffre d'affaires, nous avons également cette même tendance sur notre rentabilité et sur notre résultat net. Si le slide suivant vous présente l'évolution du résultat opérationnel courant sur l'année, avec un petit tableau qui vous le décompose par division, on insiste cette année sur le résultat opérationnel courant pour, je dirais, mettre de côté les effets IFRS 16 qui ont un impact sur le BE mais pas sur le ROC. Et donc dans ce graphe, ce que nous souhaitions mettre en évidence, c'est effectivement que le ROC est fortement impacté par la génération de marge liée à la croissance de notre activité, donc d'un passé de 100,7 millions de chiffres d'affaires à 110,7 millions de chiffres d'affaires. Nous avons maintenu notre taux de marge sur achat consommé au-delà des 60% comme c'était notre objectif, et on l'a même amélioré puisqu'on passe à 60,6% contre 60,4% l'année passée. Un autre élément qui est venu améliorer le résultat opérationnel courant, ce sont les travaux qui a été fait sur les charges opérationnelles, hors masse salariale, charges opérationnelles sur lesquelles effectivement nous avons mis ce poste sous contrôle et ce qui a permis effectivement de générer des économies, notamment en matière de rémunération d'intermédiaires et d'honoraires, en matière de déplacement. On a également travaillé à améliorer la couverture des charges du groupe en termes de subventions par rapport à l'ensemble de programmes de R&D qui sont en cours dans le groupe. Donc, tous ces éléments expliquent la baisse des charges opérationnelles. S'agissant des charges de personnel, celles-ci augmentent pour deux raisons. D'une part, l'adaptation des moyens de production dont Marc parlait, passée par une augmentation des effectifs, notamment sur les lignes de production les plus dynamiques, notamment le laser à fibre et donc sur le site de Lannion. Donc, on a un effet d'augmentation de la masse salariale à ce titre-là pour 2,7 millions d'euros. Et puis également, une augmentation des charges de personnel liée à l'intéressement des équipes aux fruits de la croissance. D'une part, avec la mise en place d'un plan d'aga en avril 2019, donc qui pèse pour 0,8 millions d'euros sur le ROC de l'année, et également l'augmentation de la charge de participation. C'est un point qu'on souhaitait, pour le même montant, 0,8 millions d'euros, c'est un point qu'on souhaitait souligner parce que ça traduit également le fait que le groupe et les sociétés du groupe sont arrivées à un niveau de croissance qui permet effectivement, un, d'absorber ces déficits fiscaux propres et de pouvoir générer cette participation. Donc c'est un bon signal pour le groupe. En contrepartie, on constate une augmentation des dotations aux amortissements de 1,3 million d'euros, qui est liée au programme d'investissement des dernières années. Il n'y a rien de compliqué sur cette thématique, et également une augmentation plus modérée, donc des dotations nettes aux provisions, donc c'est les provisions nettes des charges correspondantes que ces provisions viennent couvrir, et dont l'évolution est en lien avec globalement l'évolution de l'activité. Voilà pour le résultat opérationnel courant et pour les aspects de résultats. Je vous propose de passer au slide suivant qui témoigne de l'évolution du cash flow opérationnel, donc une bonne rentabilité, une augmentation de l'excédent brut d'exploitation se traduit également par une amélioration de notre cash flow opérationnel qui est en hausse de plus de 61%. Donc le cash flow opérationnel, ce sont les flux des activités opérationnelles que vous retrouvez dans le tableau de flux. Le cash flow opérationnel est essentiellement lié au niveau de notre excédent brut d'exploitation, puisque notre variation de BFR est quasiment nulle. Elle est de moins 0,1 million d'euros. Cette maîtrise de la variation du BFR, elle porte essentiellement sur un travail particulier qui a été fait sur la gestion du poste client, donc avec des actions particulières pour assurer un meilleur recouvrement, une meilleure fluidité de la thématique. Et également avec un niveau de stock qui a été stabilisé par rapport à l'année dernière, et donc une augmentation simplement de 1 million d'euros. Le groupe n'a absolument pas anticipé en fin d'année les effets du Covid en essayant de réduire ses stocks, pas du tout. Il est bien en gestion de production et par rapport à des commandes qui, comme l'a dit Marc, n'ont pas baissé sur le premier trimestre. Donc un cash flow opérationnel à 19,5 millions d'euros qui couvre à la fois les flux de capex industriel qui s'élève à 11 millions, qui porte pour moitié sur les frais de développement, donc tous les projets de R&D engagés par le groupe de façon totalement récurrente, et également sur l'investissement dans l'immeuble de nouveaux bâtiments immobiliers de Cantel Médical qui vient accompagner la croissance de cette activité. Des investissements financiers, donc ce qui concerne des croissances externes, pour 6,1 millions d'euros. Il s'agit de l'acquisition des titres d'Optotech, l'acquisition des titres d'Allophotonics et net de la trésorerie qui était portée par ces structures. S'agissant des cash flows de financement, je ne reviens pas dessus. L'essentiel de la génération des cash flows de financement vient de l'augmentation de capital dont Marc a parlé. À la fin de l'exercice, le groupe se retrouve donc avec une trésorerie, donc qui correspond à la trésorerie active moins les concours bancaires courants, de 49 millions d'euros. Donc, ce qui est une situation particulièrement solide et confortable pour aborder l'année 2020. Le slide suivant vous décompose la variation de la dette financière nette. Donc, je vous rappelle qu'en début d'exercice, le groupe avait une dette financière nette de 3 millions d'euros et en fin d'exercice, une dette financière nette négative de 18,2 millions d'euros. On retrouve dans ces variations tout ce que je viens de vous indiquer, à l'exception peut-être de l'effet d'IFRS 16 sur la dette financière nette, donc à l'ouverture, la prise en compte d'une dette financière nette de 5 millions supplémentaires liée à l'application de cette norme. Pour le reste, vous retrouvez les flux qui vous ont été décomposés sur le tableau de flux. Je ne reviens pas dessus. Le groupe donc se retrouve en fin d'exercice avec une situation financière particulière. particulièrement solide, qui lui donne les moyens de sa croissance, une trésorerie financière nette négative, une trésorerie au bilan actif de 50,3 millions d'euros. Et donc, les points sur lesquels je souhaitais insister, donc c'est bien cette augmentation de capital de 25 millions d'euros, la mise en place également d'une dette d'acquisition de 35 millions d'euros en juin 2019, dette d'acquisition qui va lui permettre effectivement d'accompagner ses croissances externes futures. Sur cette dette d'acquisition, donc qui est tirable jusqu'au 31 décembre 2020, le groupe n'a à ce jour tiré que 5,1 millions d'euros pour financer l'acquisition d'Optotech. Donc il lui reste à tirer, donc à mobiliser, la possibilité de mobiliser encore 29,9 millions d'euros. Le groupe a également mis en place des financements spécifiques pour financer le nouveau bâtiment de Cantel Médical. Quand bien même on aurait pu être autosuffisant, on a mis en place ces financements. On a également mis en place le financement du CIR, donc du crédit d'impôt recherche 2017. Et non sur l'exercice 2019, mais début 2020, on a également mobilisé en tout début janvier 2020 un prêt garanti BEI de 5 millions d'euros. Donc, le groupe a donc une trésorerie financière, solide en fin d'exercice, a déjà la possibilité de mobiliser d'autres lignes qui ont été, je dirais, dont les conditions ont été définies dès l'exercice 2019, a mis en place de nouveaux financements dès le début de l'année et travaille à mettre en place d'autres financements, bien sûr. Et face à cela, elle a un plan d'amortissement de sa dette qui, comme le montre le graphe que vous voyez, est très soutenable et supportable. Et s'étale bien sur une durée qui lui permet de l'absorber. Je terminerai simplement par la présentation du bilan. Donc, c'est une photographie du bilan. Les seuls points sur ce bilan que je souhaitais mettre en avant, c'est bien sûr la solidité de la structure financière, donc avec des capitaux propres qui ont fortement progressé et qui s'établissent à la fin de l'exercice à 125 millions d'euros. La dette financière nette, je ne reviens pas dessus, mais je vous ai indiqué sa composition, et un point également sur le BFR à date, donc non pas le BFR, la variation de BFR dans le tableau de flux, mais BFR à date, qui lui effectivement baisse également. Donc un bilan particulièrement, je dirais, solide et qui permet au groupe, je l'ai dit, mais je le redis également encore, qui lui permet d'aborder l'année 2020 avec beaucoup de sérénité et d'ambition. Je passe maintenant la parole à Jean-Marc, qui va vous parler de l'acquisition d'Elex. Allô, allô?
Non, je suis bien présent, je suis là. Donc l'activité de l'acquisition d'Elex, nous avons donc finalisé notre offre le 24 décembre. Donc l'objectif de l'opération, c'était de réunir le savoir-faire de ces deux acteurs, qui soit Cantel Médical et Elex. Cette acquisition pour un montant de 55 millions d'euros qui doit être finalisée dans le mois qui arrive, c'est pour nous une opération qui est importante parce que ça va nous permettre de deux choses. La première, c'est de contribuer à la création vraiment d'un leader au niveau des dispositifs laser et des ultrasons, avec une position complète de leader. Elex est une marque forte, principalement sur les marchés Japon et USA. On va aller directement au slide d'après, Mathieu, s'il te plaît. D'accord. Pour bien préciser qu'Elex, aujourd'hui, c'est approximativement 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'en année pleine, le pôle médical sera à 80 millions. Elex, c'est une entreprise qui travaille dans le glaucome, dans la DMLA, dans les pathologies de la rétine, la cataracte. C'est un très gros réseau de filiales. Encore une fois, Japon, États-Unis, Allemagne, Australie, et puis derrière, la France, et puis derrière, c'est surtout des capacités de R&D et une capacité de production en Australie. Et sur le slide suivant, on va retrouver qu'est-ce qui finalement est fait un point clé de cette acquisition. Ça va être la mise en œuvre des synergies que nous allons pouvoir établir avec cette entreprise. Donc, nous avons déjà commencé, bien sûr, à nous projeter dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, le partage des ressources R&D et de production, avec plus de 40 personnes en R&D, vont nous permettre de continuer notre développement. L'innovation est importante, à la fois technologique, à la fois clinique. Et ça, c'est une vraie force d'Elex. Tout ça va nous amener à pouvoir nourrir à la fois les filiales plus importantes qui vont être créées et ce réseau de distribution qui fait notre force. Donc, je suis dans le, nous sommes dans le process. Les voyants, bien sûr, avec Covid, ne sont pas tous au vert. Il y a du travail actuellement pour réadapter certaines choses dans notre plan. Mais en tous les cas, cette acquisition initiée en 2019 contribuera, et on le verra tout à l'heure, vraiment à transformer le pôle médical et à lui donner des atouts et des ressources pour atteindre le fameux mot de la masse critique dans ce marché-là. Voilà. Donc, j'étais un peu rapide pour pouvoir passer la parole sur stratégie et perspective à Marc, qui sont les points importants pour vous sur l'année 2020.
Oui, donc pour rappeler en fait que enfin, nous restons confiants en fait sur le moyen à long terme. Donc le projet en fait donc a deux objectifs principaux. On n'a pas arrêté de le répéter, mais je le répète encore, donc la croissance et la rentabilité, la croissance mixte, donc faite de croissance organique donc sur les marchés qu'on adresse actuellement. Donc on a la chance en fait d'avoir donc des activités qui sont diversifiées, c'est particulièrement important aujourd'hui. Donc et on est en fait donc sur des positions de leadership déjà donc très affirmées en fait donc sur donc le marché du LIDAR par exemple. Donc c'est un marché donc sur lequel donc nous sommes présents donc en pôle position sur les trois segments sous-segments dont je vous ai parlé, mais vous voyez bien en fait que bon, ces marchés-là donc ne peuvent que croître. Donc le LIDAR donc est intimement lié donc par exemple donc à la machine de demain donc qui est équipée en fait donc d'intelligence artificielle. Donc c'est le capteur, c'est l'œil de la machine. Donc et plus donc ces marchés-là donc enfin vont continuer à se développer donc et ça de façon importante. Donc sur le médical donc bon, le fait que la population vieillisse, le fait que on arrive donc à fabriquer donc des instruments donc plus performants, plus accessibles donc sur le plan économique, donc font que la demande ne va pas se tarir, donc bien au contraire. On développe également donc d'autres activités donc sur le point of care, donc là aussi donc qui a un très gros potentiel. Donc sur le marché de la défense, donc nous sommes en fait donc sur un marché très captif, donc avec une volonté des gouvernements donc européens donc de développer en fait les filières optoélectroniques, donc sur lequel donc l'Unibird donc a un rôle essentiel à jouer et aujourd'hui donc particulièrement bien placé donc pour répondre à ce besoin donc et travailler avec les industriels de défense donc français et européens. Donc toute cette croissance organique nous semble donc assez évidente, même si la crise donc peut venir donc dépasser en fait donc certains objectifs. Adossé à cette croissance organique moyen terme, donc on dope la croissance donc par les croissances externes. Donc on en a déjà fait donc trois l'an dernier, donc dont une donc qui va arriver donc majeure en fait donc qui va être finalisée en fait cette année avec l'acquisition d'Alex. Et on poursuivra en fait donc de façon à faire grossir le projet dans la mesure où on est capable donc d'intégrer, donc considérer en fait Lumibird comme une plateforme d'intégration. C'est une vraie plateforme d'intégration, une plateforme de nouvelles activités. Donc nous avons structuré le groupe donc pour être en capacité de faire venir de nouvelles activités dans le groupe et d'être capable de les valoriser en fait. Donc c'est ça en fait le projet en fait de Lumibird aujourd'hui en fait sur la croissance externe, et le modèle est vertueux, et je pense donc que nous commençons à le démontrer au travers des chiffres donc qu'on vous a présenté déjà depuis trois exercices. Voilà pour la croissance. Donc la rentabilité donc bon, elle est liée en fait donc à tout ce qu'on a déjà donc décrit, donc bon, la verticalisation, bon, l'industrialisation, et puis bon, la masse critique donc et notre capacité encore une fois donc à intégrer donc de façon efficace donc toutes les nouvelles activités sans donc rajouter en fait donc des coûts de structure supplémentaires, et surtout en fait d'être capable de faire émerger toutes les synergies donc au sein du groupe. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura communiqué donc un petit peu d'optimisme Donc avec notre projet, encore une fois, nous avons la chance d'avoir une super équipe et bah, je souhaite en tout cas remercier en fait tout le travail auprès des équipes internes de ce qui a été fait sur 2019 et nous sommes on peut dire gonflés à bloc pour adresser les nouveaux défis de 2020. Je vais vous laisser la parole si vous voulez bien pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Merci de votre attention.
Ladies and gentlemen, at this time, we will begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star followed by one on their touchtone telephone. If you're using speaker equipment today, please lift the handset before making your selection. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star followed by two. Anyone who has a question may press star followed by one at this time. One moment for the first question, please. The first question comes from the line of Christian Morguet from OUS Gestion. Please go ahead.
Oui, bonjour et merci. Bonjour Marc, merci pour cette présentation. J'ai une question. On parle à beaucoup d'entreprises en ce moment, évidemment. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir la grande différence entre ceux dont la production est à l'arrêt et ceux, finalement, qui arrivent à maintenir une production relativement importante. Alors, est-ce que c'est des questions de volonté de management? Est-ce que c'est des questions de relations sociales dans l'entreprise? C'est sans doute un peu tout ça. Et j'aimerais savoir pour vous, chez Lumibird, est-ce que, en fait, vous arrivez à produire ce qui est vraiment indispensable pour vos clients ou il y a réellement des freins qui vous font que vous n'arrivez pas à servir votre marché?
Oui, enfin, donc pour nous, il est critique de poursuivre en fait la production et les développements. Et on l'a intégré en fait dès les premières difficultés évidentes de cette crise sanitaire. Et comme je vous le disais, bien avant en fait les annonces de confinement qui ont été faites, on a pris les devants. Pour être capable de poursuivre, parce que nous sommes convaincus de la nécessité de le faire, non seulement pour passer cette crise, mais surtout en fait d'être capable de profiter du rebond, parce qu'il y en aura forcément un. Il est particulièrement important d'occuper aussi l'espace. Il y a dans toutes les difficultés aussi des opportunités à saisir. Et on ne veut pas les laisser passer. On a la chance d'avoir une équipe motivée sur le projet, je pense bien participative, qui comprend les enjeux. On a travaillé avec les collaborateurs. C'est pas par hasard qu'on a embauché aussi un DRH pour nous aider à mieux communiquer en interne, à faire passer les messages indispensables pour rassurer les gens et tout ça en fait pour que tout le monde se mobilise pour continuer à développer et à produire.
Ok, d'accord, merci. Vous êtes dans ceux qui continuent, vous n'êtes pas comme la Poste.
Non, non. Merci.
For any further questions, please press star followed by one at this time. That's star followed by one at this time. The next question comes from the line of Steve Levy with Mind First. Please go ahead.
Oui, bonjour, Steve Levy, Mind First. J'avais juste une question sur votre stratégie d'acquisition à l'avenir. Est-ce que vous avez identifier des cibles qui pourraient être en mauvais état suite à l'environnement actuel et qui masseraient bien votre portefeuille d'activité?
Alors bon, on continue d'avoir on était déjà en fait à l'étude sur des dossiers depuis plusieurs mois et on continue d'être de travailler en fait sur les dossiers en cours et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sollicitations en fait sur de nouveaux dossiers Et effectivement, donc, quand on parle d'opportunités, il peut y en avoir. Hein. Maintenant, il faut pas non plus se précipiter. Donc, donc il y a donc une période encore donc un petit peu difficile. Donc, je pense qu'il faut stabiliser un petit peu donc les choses. Donc suite aux dernières difficultés donc environnementales, mais clairement donc on est effectivement aux premières loges donc pour pouvoir bénéficier, je dirais, d'opportunités donc à saisir et on est convaincu qu'il y en aura et il y en aura de il y aura vraiment de très beaux projets. Oui.
Est-ce que vous pouvez vous avez des critères sur en termes de multiples ou de type d'acquisition qui.
Non, j'ai pas tout à fait compris votre. Enfin, je pense avoir compris, j'ai pas bien entendu, mais. Sur le type de cible, donc ça sera à la fois en fait donc des projets donc technologiques, bon, ça peut être des concurrents donc qui se retrouvent un petit peu plus en difficulté, qui peuvent en fait donc compléter en fait notre gamme produit et nous ouvrir en fait donc d'autres marchés potentiellement. Donc bon, il y a des activités de petite taille, c'est essentiellement en fait donc des activités de petite taille aujourd'hui donc qui se présentent. Les activités de moyenne à grosse taille, donc on les a déjà identifiées et ce sont des projets sur lesquels on continue de discuter.
Merci beaucoup.
The next question comes line of Jeremy Sully with Port Sun Park. Please go ahead.
Bonjour à tous. J'avais juste une petite question concernant l'évolution des charges externes cette année qui ont baissé de 13%. Voilà, je voulais juste savoir si vous pouvez nous éclairer sur ce point. Est-ce que cette baisse, est-ce que c'est un élément exceptionnel ou non? Merci.
Alors, il y a des. Donc, c'est Aude qui, au nom Bleu-Gouin, qui va répondre. Il y a des éléments de nature, effectivement, qui sont plus structurels qu'exceptionnels, puisque je vous rappelle que depuis 2 ans, le groupe menait des opérations de réorganisation de son périmètre juridique avec les séparations des filiales de production et des filiales de commercialisation. Donc, ça a nécessité un certain nombre d'engager un certain nombre de charges externes de type honoraire, d'intermédiaires, d'avocats et autres. Donc, on les a supportés sur 2018 et en grande partie sur le premier semestre 2019. Donc, finalement, la baisse que vous constatez entre le premier semestre 2018 et ce second semestre, pardon, 2019 et le second semestre 2019, elle est structurelle. Et de fait, je dirais que le niveau de charge du second semestre 2019 est, de ce point de vue-là, plus normatif de ce que sera le niveau de charge à venir, toutes choses égales par ailleurs.
Ok, merci.
For any further questions, please press star followed by one at this time. The next question is from the line of Eric Blaine with Finance Connect. Please go ahead.
Oui, bonjour, je suis désolé. J'ai peut-être été déjà appelé, mais mon téléphone est tombé en rade. Ce qui fait que j'ai pas entendu les questions, donc je suis désolé si vous avez déjà évoqué la chose. Juste sur les frais de R&D capitalisés, c'est 5,6 millions d'euros. Et quelle est la part qui a été amortie? Est-ce qu'il y a des amortissements, pardon, qui ont été passés de l'autre côté sur la R&D capitalisée simplement? Et juste un petit point, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, quelle est, pour finir, la trésorerie post-acquisition, la dernière, là, que vous n'avez pas encore payée, je pense, et est-ce que le prix de cette acquisition est définitif ou est-ce qu'il peut être révisé? Voilà, je suis désolé, j'espère que vous n'avez pas répondu, que la question n'a pas été posée.
Non, la question n'a pas été posée. Bon, Pierre, peut-être que vous voulez répondre, si vous voulez.
Concernant la trésorerie post-acquisition, en fait, l'opération pré-acquisition, nous sommes à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes en négociation en fait sur des compléments de lignes en fait plus sécuritaires en fait dans le contexte actuel. En fait, c'est plus l'idée d'être précautionneux par rapport à l'effet d'intégration. Il n'y a pas de risque identifié, mais c'est plus confortable en fait dans la situation actuelle d'être bien financé, d'avoir une position de cash large.
Oui.
Et donc effectivement la trésorerie post-acquisition sera supérieure à 30 millions d'euros en fait aujourd'hui.
D'accord. Et en dette nette, si on part du moins 18 que vous avez au 31 décembre, qui comprend, si j'ai bien compris, l'acquisition de Hello Photonics pour 5 et quelques millions d'euros, d'Hello Photonics et d'Optotech.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Ça a été payé dans les 18 millions d'euros que vous avez en dette nette au 31 décembre.
Fait.
Par contre, rien n'a été payé pour Elex.
Ah, tout à fait. Rien n'a été payé.
D'accord. Donc, on a 55 à rajouter. C'est 55 moins 18, grosso modo. Est-ce que je ne me trompe pas dans le calcul, c'est ça? Si je veux faire une dette post-acquisition, dette nette?
Oui, vous allez arriver, globalement, c'est juste. Alors, l'effet de trésor sera supérieur parce que les compléments de trésorerie, au-delà de ce qu'on pourrait générer sur l'exercice, seront financés par une dette complémentaire. Voilà.
Mais
oui, tout à fait. Le calcul est juste, et moins 18, plus
50. Il y a du cash dans Elex? Non.
Il y a un petit peu plus de 10 millions de dollars australiens de cash, mais qui couvre en fait une dette existante. Donc en dette nette, ça n'aura pas d'effet en fait.
Ok, et le prix est irrévocable? Ou est-ce que vous discutez du prix compte tenu de l'évolution de la situation? Ou est-ce que c'est déjà fixé?
Les éléments, comme l'a évoqué Jean-Marc tout à l'heure, les éléments du SPA ont été négociés au mois de décembre. Maintenant, aujourd'hui, les éléments sont en cours de finalisation. Rien n'est exclu. Voilà. Sans pouvoir vous répondre plus précisément, mais rien n'est exclu. Voilà.
Et sur la R&D capitalisée amortie, le solde net, c'est quoi en fait entre la R&D et la capitalisée amortie?
Au niveau bilanciel, vous voulez dire?
Ouais.
Ah, je crois qu'on est à 18 millions. Je vérifie ça.
Non, je veux dire sur l'année 2019.
La dotation aux amortissements sur l'exercice.
Voilà.
Pardon.
Parce qu'en fait, on a effectivement l'investissement R&D capitalisé, mais on n'a pas de l'autre côté l'amortissement R&D capitalisé de la R&D capitalisée.
3,7 millions.
D'accord. Donc l'écart est de 2 millions, un peu moins de 2 millions.
C'est ça.
Ok. Merci. Excusez-moi encore.
There are no further questions this time. I hand back to Marc Lafroïc for closing comments.
Oui, écoutez, merci.
Excuse me, sorry. There's a final question from the line of Brunel with Financière 12. Please go ahead.
Oui, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a une partie des acquisitions qui vont être financées en titres ou est-ce que c'est les earn-out? Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ça?
Pierre, je vous laisse répondre.
Oui. Alors, on a une partie, en fait, c'est un earn-out, en fait, sur l'acquisition d'Allo qui est financée en titre Lumibird. Et on a lancé, en fait, il y a maintenant quelques semaines, en fait, un programme de rachat d'actions. C'est en cours et, en fait, la livraison de ces titres se fera fin d'année.
Mais sur l'acquisition d'Elex, il n'y a pas d'earn-out?
Non.
Et puis sur les autres acquisitions potentielles, là...
Rien n'est exclu. Rien n'est exclu.
Rien n'est exclu.
Le prix est intéressant.
Aujourd'hui,
pour payer un titre.
Voilà. Alors, tout à fait, d'autant plus que le titre aujourd'hui a un gros potentiel de croissance. Donc c'est une belle opportunité également pour le cédant, en fait, d'être payé en titre Lumibird.
Ok, merci beaucoup.
Excuse me, there's also a second question coming from Eric Blaine with Finance Connect. Please go ahead.
Juste poursuivre la question précédente, le nombre, la part payée en earn-out en titres, c'est un nombre de titres ou c'est un montant en millions d'euros et l'ordre d'idée du chiffre?
C'est un montant en millions d'euros c'est un montant en millions de livres je crois qu'on ne l'avait pas disclosé en fait, donc on ne l'a pas disclosé. Mais c'est un montant supérieur aux millions d'euros en titres.
D'accord, merci.
Now there are no further questions. I hand back to Marc Lefouille.
Très bien. Écoutez, merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé à cette téléconférence. J'espère que vous aurez passé un bon début de journée, qu'on vous aura effectivement passé un message positif. Sachez que nous sommes tout à fait mobilisés sur le projet nous abordons en fait cette année 2020 avec toute la sérénité nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente le projet nous tient à cœur évidemment et j'espère que vous serez à nos côtés en fait pour nous supporter. Merci encore à tous et à toutes. Passez une très bonne journée, puis bien prenez soin de vous. Donc, à très bientôt. Merci.